Dans un jardin, sur une pelouse, je suis étendue.
Elle est étendue.
La pelouse présente à un certain endroit une surélévation marquée de forme conique. Je m'installe de manière que ma nuque se trouve exactement au sommet. Ainsi, ma tête est renversée et je peux voir le ciel. La première fois, ma sœur est près de moi.
Je suis près d'elle.
Celle à laquelle je pose les grandes questions.
Quoi ?
Celle en qui j'ai confiance. Je lui dis, mais derrière ce ciel, il y en a un autre.
Un autre.
Elle rit et me dit qu'il y en a beaucoup d'autres. Et je dis que, bien sûr, puisqu'il y a le septième ciel. Elle devient sérieuse et m'explique que nous sommes environnés de ciel, que la terre tourne, que le ciel n'a pas de fin. Elle part.
Je m'éloigne.
Je demeure un très long temps, là, immobile, songeant à l'infini, essayant de me représenter physiquement l'infini. Une angoisse terrible me saisit. Mais je ne bouge pas. Et j'arrive bientôt à sentir la terre qui tourne. Ma tête demeurée dans cette position tournait effectivement et violemment.
Je suis là.
Chaque soir, au moment où les bruits s'apaisaient, je revenais là pour trouver cette sensation de terre qui tourne et me sentir perdue en elle, emportée dans ce vertige.
Dans le télégramme électronique numéro 3792, envoyé le 23 janvier 2014 par l'Union Astronomique Internationale, Stephen G. Fossey rapporte la découverte d'une supernova SN2014J dans la galaxie Messier 82.
À propos de grabuge, Marc, vous savez peut-être qu'on vient de détecter l'explosion d'une étoile dans la galaxie Messier 82. Cette explosion a libéré en une seconde autant d'énergie que le Soleil en 10 milliards d'années. Elle s'est produite il y a 12 millions d'années et la galaxie par laquelle elle s'est produite, la galaxie du Cigare, est située à 12 millions d'années-lumière de la nôtre. Ce qui veut dire que la lumière émise par cette supernova va nous arriver dans les jours qui viennent.
C'est incroyable, on va la voir vraiment cette lumière. Ça va faire quelques jours.
10 milliards de Soleil, c'est quoi ?
La lumière qui est partie de 12 millions d'années.
C'est quoi 10 milliards de Soleil ? 10 milliards de soleil.
Et là,
SN2014J. Supernova SN2014J.
Libérée en une seconde.
En une seconde. Il y a 12 millions d'années.
Voilà, en une seconde, autant d'énergie que le soleil en 10 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'explosion.
12 millions d'années-lumière de chez nous.
Pendant les heures et les jours qui suivirent, j'étais surpris de constater que l'information n'avait produit aucun effet perceptible sur le déroulement de la vie quotidienne de nos contemporains.
Lui, c'est Bernard. C'est l'artiste. Il est dans son atelier.
Cette crise sidérale s'était produite dans un angle mort de notre conscience. Impensée.
Impensable.
Elle reste encore quasi invisible.
Mais on lui a donné un chiffre pour ne plus la perdre de vue. SN 2014 J. De soleil, c'est quoi? C'est quoi 10 milliards de soleils? 10 milliards de soleils? Supernova SN 2014 J. 12 millions d'années-lumière de chez nous. Une supernova vient d'exploser. Hier, mais maintenant. Disparition survenue il y a 12 millions d'années, loin dans le temps.
Supernova 2014 in M.
Elle dit la disparition brutale d'une étoile, loin dans l'espace. Elle survient dans la galaxie M82, à 1000 milliards de kilomètres de la Voie lactée. Assourdissante lumière, mais que l'on n'entend pas.
Stephen J. Fossey, University of London Observatory, University College, London, reports the discovery of an apparent supernova.
C'est la disparition d'une étoile anonyme, d'une masse beaucoup plus grande que le Soleil. Les astronomes du monde entier sont en émoi. Leur coupole tourne et s'ouvre vers cette lumière nouvelle. Les télescopes observent, scrutent. SN 2014 J. C'est son nom. Elle est exposée.
Plus S.
Elle est exposée.
L.
Elle est exposée.
03 camera.
Nous recevons longtemps après son faire-part de lumière. Autant de lumière que 10 milliards de soleils réunis.
Image posted.
10 milliards de soleils. 10 milliards de soleils.
22.414, 11.4.
Une débauche d'énergie et de matière dispersée sans compter.
Katari, Shibaken, Japan. 0.23 meters focal 6.3. Limiting mag, position and figures, 42 seconds. 0.18, 25 seconds. 0.8. Semicolon offset 55 seconds west.
On January 18, 977. UT has been posted on warp side.
La perception simultanée des puissances, des distances et des durées fait résonner en nous un infini vertigineux. La semaine dernière, le temps s'est accéléré pour moi dans l'atelier, espérant avant mon départ avancer la mise au point du dessin terminal 35. C'est un grand format transparent, tracé sur deux écrans de soie superposés. Il représente la salle d'embarquement d'un aéroport envahie par la lumière solaire. En oblique, barrant tout le tableau, on discerne l'esquisse de la structure métallique d'une passerelle en verre qui relie la salle d'embarquement à la porte d'un avion, attendant sur le tarmac l'heure de son envol. Comme avec un cadran solaire, l'ombre indique le moment décrit dans le tableau, vers 17h. L'espace est totalement vide, il n'y a personne. Le temps est suspendu. Toute cette zone sera colorée en jaune. Un autre dessin, complètement différent, se superpose à cette scène. C'est un panneau d'affichage. Comme ceux des salles d'attente qui affichent horaire de départ et de destination. Au bout de chaque ligne, rime des mots. À l'heure, en retard, annulé. Sur celui-ci, le mécanisme qui met en mouvement chaque facette est détraqué. On ne voit qu'un alignement de lettres et de chiffres qui compose un récit incompréhensible.
La couleur de cette partie
n'est pas encore définie.
À la veille de ce grand départ, ce panneau prend un sens inattendu.
Arriverons demain de nuit à l'observatoire de Haute-Provence. Dimanche, personne ne nous attend là-bas. Les clés seront sur les portes des chambres, avec nos passes et les codes pour accéder aux coupoles la nuit. Il fait nuit lorsqu'on arrive en voiture à proximité de l'observatoire de Haute-Provence. L'on badge, la barrière s'ouvre sur une immense route qui monte car on est là pour s'élever. Et à la fin de cette rampe, enfin, on est prêt pour le grand voyage. Où là se dressent les télescopes.
Coordonnées 43 degrés 55 minutes 51 secondes nord, 5 degrés 42 minutes 48 secondes est.
Autour, tout est éteint. Étoiles restées pour ne pas gêner l'observation. Même la nature semble silencieuse et calme. Parfois, le vent agite les arbres. Et fait chanter les coupoles. Comme tous les observatoires du monde, nous sommes dans un endroit retiré, semblable à un monastère dans lequel nous nous préparons à l'observation. René Char ne savait pas qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur la terre. Et pourtant, il écrit. Par quel paradoxe la lueur des étoiles a-t-elle sur les eaux une ombre et non un reflet lumineux? Leur message idéal nous reste malheureusement obscur. Mais comme le vide, l'obscur a valeur positive. L'on pourrait considérer que la naissance de monde nouveau a la valeur du silence. Le son des télescopes traduit notre effort pour lire l'infini. Les supernovas explosent dans un fracas assourdissant mais inaudible. Seule la lumière nous relie à l'universel.
Daniel nous accompagne. Lui, c'est l'astrophysicien. Il observe, s'intéresse à la cosmologie, à la formation des galaxies et aux quasars. On nous dit qu'il est directeur de recherche émérite au CNRS. Pénétrer à l'intérieur de la coupole.
Voilà, là on entend un bruit, tout simple.
Y passer une première nuit, retenant nos souffles pour ne pas perturber l'observation, ne pas dégager de chaleur.
tâtonner dans le noir, essayer de se repérer avec les rares petites lumières. Attendre et imaginer le jeune astrophysicien en 1973, manipulant ses plaques photographiques dans le noir. Il était, d'une certaine façon, le maître de l'obscurité, passant toute la nuit au pied du télescope à suivre son comportement et suivre le ciel qui s'engouffrait dans la coupole.
Je me souviens d'avoir observé, étant couché sur le plancher du télescope, regarder comme ça, avec presque les bras en croix, regarder à travers ce qu'on appelle le cygné, qui est cette espèce d'ouverture sur le ciel, d'observer les étoiles et puis d'écouter, d'être imprégné par ce murmure du télescope, ces petits mouvements, tout ce qu'on entend là, ce tic-tac du temps sidéral. Et à chaque fois, je me disais, qu'est-ce que je vais découvrir ? Qu'est-ce que cette lumière va m'apporter après avoir voyagé aussi longtemps ? Parce qu'il y a cette notion qui est extraordinaire et que j'ai toujours gardée en mémoire à chaque fois que j'observe, c'est que cette lumière que j'observe, elle a mis un temps pour arriver. Et moi, je suis là, je la prends au piège comme ça. Je lui tends un obstacle, en fait. Cette lumière, elle aurait pu continuer, elle aurait pu passer à côté et continuer encore pendant des années et aller sur une autre galaxie. Ben non, elle tombe sur ce miroir et puis finalement, elle termine sur cette plaque photographique. Elle laisse une trace. Elle laisse une trace après avoir voyagé, parcouru des milliards de milliards de kilomètres pendant des millions d'années ou des milliards d'années. Et ça, ce travail sur l'instant, c'est quelque chose d'important en astronomie en particulier, parce que l'instantané n'existe pas. On ne peut pas appréhender l'univers d'un seul coup d'œil, puisque lorsque l'on regarde très très loin, eh bien, ce que l'on voit, c'est le passé. Ce n'est pas la même temporalité que ce que l'on vit, tout simplement parce que la lumière met du temps. Donc on a du mal quand on énonce que la lumière se déplace à une certaine vitesse. La conséquence, c'est qu'effectivement, bien, regarder une étoile, c'est regarder dans le passé. Souvent, je faisais abstraction de la distance, j'essayais d'imaginer cette lumière. Et ça me projetait, c'était incroyable, ça me projetait vraiment aux confins de l'univers. Pour moi, c'est devenu un univers mental supplémentaire que j'avais l'impression de percevoir, de toucher. Quand j'observais les premiers quasars, qui étaient les objets les plus lointains qu'on pouvait observer à l'époque, mon but c'était de retrouver encore un plus éloigné. Et c'était pas un simple jeu, c'était parce que je me disais plus je vais loin et plus j'en saurai quelque chose sur l'origine. On cherche à savoir le fin mot de l'histoire, d'où on vient, qui sommes-nous, etc. Et on n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais, et ça c'est quelque chose, c'est comme l'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. C'est une vraie question. Pourquoi les origines sont toujours confisquées ? Mais il y a aussi ici une sorte de rythme, la nuit. Dans l'obscurité, fait qu'il y a une pulsation, on entend la pulsation. Comme s'il y avait un cœur dans le télescope, hein, et qui est constitué de tous ces mouvements de rotation, qui sont en symbiose avec la rotation de la Terre. C'est ça qui nous fait sentir que la Terre tourne. Nulle part ailleurs, on peut sentir aussi bien que la Terre tourne. La Terre tourne et donc le télescope doit tourner. Soit d'une manière continue, ce qu'il fait, hein, mais de temps en temps on le rattrape un peu parce qu'il va trop vite ou pas assez vite. Et avec lui, évidemment, avec le télescope, la coupole doit tourner. Et donc ça crée un rythme, ça crée une sensation du temps.
Positionnement du télescope. Ouverture Marguerite. Mouvement Delta. Mouvement Alpha. Ventilateur du pelletier. Branchement des caméras. Ouverture protection bonnette. Mise en marche du sidéral. Mouvement ascensionnel droit. Mouvement de la déclinaison. Ajustement avec la raquette. Changement de foyer miroir. Temps universel. Supernova SN 2014J. Supernova SN 2014J. 12 millions d'années-lumière de chez nous. Imaginez l'origine du monde. Ou les origines du monde. Imaginons un instant qu'en regardant le soleil de face furtivement, l'on peut se dire que dans 6 mois, on serait de l'autre côté et que cela donne dans notre chair la vision des distances qui nous séparent.
Ce qui fascine, c'est pas ce qui arrive, mais c'est ce qui n'arrive pas. C'est qu'à une certaine fréquence donnée, la lumière n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que des atomes ont absorbé cette lumière et l'ont renvoyée en dehors de la ligne que l'on est en train d'observer. Il y a un déficit de lumière à cette fréquence-là. Et c'est comme ça qu'on identifie que dans cette étoile, il y a de l'oxygène, du carbone, etc., par toutes les traces obscures. Et cette analyse de l'absence, c'est le fondement de toute la spectroscopie stellaire, etc. C'est absolument fascinant.
On va rentrer dans le télescope.
là, j'ai un badge. Voilà. Voilà. Les escaliers sont d'ailleurs de plus en plus petits. Un télescope, c'est très rudimentaire en soi. C'est simplement un grand miroir dont on lui demande qu'une chose, c'est de capter la lumière. Mais après, on en fait quoi, cette lumière ? C'est là que ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Là, c'était de la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on étalait la lumière, on l'analyse en fréquence et on regardait comment ce spectre variait au cours du temps. Et c'est comme ça qu'a été découverte la première planète qui perturbait justement, parce qu'elle tourne autour d'une étoile, elle perturbe donc le mouvement de l'étoile et c'est ce mouvement qui a été détecté par cet instrument magique-là. Je le trouve magique. Il est simple, hein.
Ouverture Cimier. Lui, le spectrographe dont parle Daniel et qui a succédé à la plaque photographique, ce sont en fait elles. Avec d'abord Elodie, qui a détecté 22 planètes extrasolaires, dont une exoplanète. Puis relayée par Sophie, qui observera 200 nuits par an les exoplanètes, afin d'augmenter le nombre d'étoiles observées, de détecter des systèmes planétaires multiples et des planètes de masse plus faibles, comme les Neptunes chauds, et les super-terres.
Miroir principal, parabolique. Diamètre, 1524 mm. Focale, 4,5. Épaisseur, 180 mm.
Rotation, pôle. Daniel rejoint Stéphane qui travaille sur le site de l'OHP. Stéphane prépare. Oriente, pointe, règle, programme, développe tout ce qui, avec les télescopes, permet d'observer et capturer les informations venues des galaxies. Ensemble, des nuits entières, ils scrutent le ciel étoilé.
Là, on bouge le télescope pour pouvoir brancher les caméras. Là.
On va faire la mise au point déjà du télescope là, donc je me prends sur une zone où il y a une étoile à peu près valable, qui soit pas trop saturée, pas trop faible.
Essaye de prendre une étoile pas trop loin du champ.
Du champ, ouais, tout à fait. Ouais.
Parce qu'à chaque fois qu'on change de position de télescope, ça, les déformations sur le miroir, les contraintes sur le télescope changent, et donc la mise au point n'est pas la même. Donc on est obligé de tenir compte de ça.
Ok. Voilà, là j'en ai une belle. On va faire la mise au point là-dessus.
Ouais.
Allez, c'est parti. Puis là, je vais ajuster la position du miroir secondaire pour avoir l'étoile la plus piquée possible. Ouais. Donc là, tu vois, je bouge le miroir secondaire. On voit que ça améliore un peu. On a un peu plus de flux. C'est pas mal. Le but du jeu, c'est d'essayer de passer la bosse. Voilà. Et de revenir un petit peu en arrière pour.
Là, on fait des allers-retours et on s'arrête là où c'est le plus stable.
Pointage. Coordonnées de l'étoile. Heure de l'étoile qui va passer en temps universel. 12 h 21 minutes 01.54 secondes. Position angulaire. 0,7 degrés, 0,8 minutes, 0,7,8 secondes. En delta, 43 degrés, 25 minutes, 12,3 secondes.
mise au point.
Ajustement manuel. Pour bien centrer l'étoile sur le chercheur, on ajuste avec la raquette du télescope pour faire des mouvements lents du télescope. Donc là, c'est plus avec les mains, mais c'est les moteurs qui vont agir pour centrer l'étoile sur le chercheur.
Ça vient. Alors c'est drôle parce que sur l'écran, là, sur l'image, on voit défiler les traces d'étoiles. Ça fait comme des petites comètes qui se déplacent. C'est assez drôle. Ça, c'est le télescope qui est en train de pointer.
Ouais, voilà.
On voit l'image. Donc on vérifie qu'il vit bien, qu'il bouge.
C'est parti. Allez, on lance la pause. Voilà. Et voilà. Donc on est parti pour une pause de 10 minutes.
Alors ça, c'est le moment formidable parce qu'on attend, le télescope travaille tout seul, on est dans un certain silence, pas total. Et puis, cette lumière-là qu'on est en train d'enregistrer, toutes ces images, tout ce que l'on voit là, à ce qu'on vient de capter, d'emprisonner dans nos boîtes, ça a quand même mis 12 millions d'années.
C'est ça, c'est les photons qui ne sont pas partis hier. Hein. Ils sont partis.
On s'en prend une certaine responsabilité. Hein. D'un coup, on se met là et on censure, on dit
hop, on les attrape.
Lumière, stop, terminé. C'est terminé l'histoire, nous on va essayer de comprendre. Voilà, à chaque fois, ça m'émeut. Et je refais le chemin en raccourci de ce que cette lumière, ce trajet a pu effectuer pendant 12 millions d'années. Ça reste quand même dans notre voisinage. Une supernova, c'est équivalent à 10 milliards de soleils qui brillent pendant un mois. C'est énorme, 10 milliards de soleils.
10 milliards de soleils ? 10 milliards de soleils ? 10 milliards de soleils ? Mais c'est quoi 10 milliards de soleils ?
La supernova, c'est la fin ultime, le dernier souffle d'une très grosse étoile, beaucoup plus grosse que le Soleil. Le Soleil fait partie des étoiles modestes. Mais il y a des étoiles beaucoup plus lourdes, qui sont à peu près 100 fois plus lourdes que le Soleil. Et ces étoiles-là, elles brillent énormément, sont très lumineuses, mais elles pêchent par excès, en tout. Par le simple fait qu'elles brillent des millions de fois plus que le Soleil, eh bien, leur durée de vie est beaucoup plus courte. Ces étoiles ne vivent que 30 millions d'années, à peu près. Et quand elles disparaissent, eh bien elles disparaissent dans un feu d'artifice étourdissant qu'on appelle supernova. Eh bien, on peut l'appeler le ciel meurtrier de certaines façons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent, mais au profit d'autres choses. Il y a un autre type de supernova qui se produit d'une autre façon, et c'est pour la supernova 2014 J, une naine blanche, qui gravite autour d'une autre étoile. et qui le fait, mais vraiment d'une manière abusive, c'est-à-dire qu'elle aspire l'enveloppe, la matière de l'étoile compagnon, et au bout d'un moment, eh bien, là aussi, elle pêche par excès, elle devient un centre démesurément, et elle ne peut plus supporter la chose. Et là, on assiste à une déflagration qui donne aussi naissance au supernova. Et dans les deux cas, on envoie l'enveloppe qui est éjectée, on voit dans l'espace des véritables bulldozers de matière à des vitesses colossales, milliers de kilomètres par seconde.
C'est des kilomètres par seconde.
Oui, c'est ça. Alors que nos images nous disent l'inverse. Nos images nous disent que tout est immobile, rien ne bouge. Donc on est tout le temps en train à la quête du paradoxe et de. Voilà. On se sent très. Ouais. Mis au défi de comprendre, ça, toujours. Chaque fois qu'il y a un photon qui tombe sur le récepteur, c'est amplifié, et donc sur l'écran, eh bien, se construit une image. Alors ça, c'est extraordinaire. La notion de hasard, pour moi, elle a pris sens quand j'ai observé, là, comme je suis en train de le faire, le signal en train de se construire. Il y a des endroits du spectre, quand il s'agit d'un spectre, on voit que tous les canaux d'observation finissent par se remplir, hein, c'est la lumière qui s'accumule. Puis il y a un endroit, par exemple, qui correspond à une certaine fréquence, je vois monter un signal. Je me dis, tiens, là, il y a une raie spectrale, ça, c'est peut-être de l'oxygène, des atomes d'oxygène qui donnent cette signature-là. Et puis, quelques minutes plus tard, je vois que le fameux signal commence à être beaucoup moins intéressant, il disparaît, il est évanescent, et puis tout d'un coup, plus rien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui font sens. Ils font sens, mais statistiquement, n'ont aucun sens. Et au bout de deux fois plus de temps, ça disparaît.
Ce soir, la voûte céleste est masquée par les nuages sur l'observatoire de Haute-Provence. Impossible de capturer des photons cette nuit. Je regarde les gouttes de pluie s'écrasant sur le sol.
Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je m'amusais à fabriquer dans le paysage des cartes de ciel étoilé. Avec un peu de patience et d'observation, l'œil s'accommodait peu à peu pour voir à différents endroits du sol apparaître des constellations de petites étoiles de pierre plus claires se détacher de la terre assombrie par la pluie. Ces étoiles, ce sont des pentacrines, des petits fossiles de quelques millimètres d'un animal marin qui vivait à l'ère secondaire, disparu il y a 180 millions d'années. Je localisais la position de chaque étoile en plantant une allumette dans le sol. Après avoir localisé sur une grande surface un nombre important d'étoiles, je tendais au bout de chaque allumette un fil de couleur rouge pour relier dans ce réseau de lignes colorées l'ensemble de tous les fossiles étoilés que j'avais repérés. Ce dessin sur le sol représentait en fait le plan cadastral d'un ciel imaginaire tombé sur Terre il y a des millions d'années.
Toute cette eau et mon désir de lire encore des messages envoyés par la supernova 2014J. Toute cette eau qui nous empêche d'observer le ciel. Toute cette eau. Pourtant, c'est elle qui me décide à rejoindre près de Marseille Vincent et Damien, chargés de recherche au CNRS. Avec le projet Antares, ils sondent les profondeurs marines en quête de ces particules cosmiques que l'on appelle neutrinos.
Fantomatique est capable de traverser des quantités de matière énormes. Et donc l'intérêt, c'est si on est capable de détecter des neutrinos de haute énergie, si on est capable de détecter ces particules, on va apprendre de nouvelles informations sur les phénomènes cataclysmiques de l'univers, comme la formation des trous noirs ou l'évolution des trous noirs, ou même aussi la mystérieuse particule qu'on appelle la matière noire de l'univers, dont on ne sait toujours pas ce que c'est.
Élucider l'énigme de la masse manquante de l'univers. Relique datant de 14 milliards d'années. Matière noire invisible constituée de particules subatomiques.
Explosion thermonucléaire du cœur et tous ces processus thermonucléaires dans ces réactions nucléaires vont produire par des intégrations qu'on appelle bêta, c'est des interactions radioactives, vont produire un neutrino. L'énergie est assez faible, c'est quelques mégaélectronvolts et le nombre de neutrinos produits par une supernova est gigantesque. Par exemple, si on prend cette supernova, c'est 10 puissance 53 neutrinos. Donc c'est 10, c'est 1 avec 53 zéros derrière, nombre en neutrinos, donc c'est gigantesque. Si on prend ce qui arrive sur Terre, il y en a 10 puissance 16. Donc c'est 1 avec 16 zéros derrière. Donc déjà, on a perdu. Si on regarde ceux qui interagissent dans la Terre, on perd encore un facteur qui est quasiment 1 ou 10 milliards. Donc à la fin, qui traverse réellement le détecteur et qui pourrait interagir, il y a moins d'une centaine de neutrinos à très basse énergie. Donc on part de 10 puissance 53, on arrive à quelques événements particuliers.
Descendre à 2500 mètres au fond de la mer, disposer 12 lignes sous-marines de 450 mètres de hauteur, constituées de 900 photodétecteurs, les yeux d'Antares. Ils guettent la lumière bleue, celle de Cherenkov.
Ces neutrinos, lorsqu'ils vont interagir dans la Terre, très peu, ils vont produire une autre particule, qu'on appelle un muon, qui est relativiste, et qui va produire de la lumière dans la mer. Et donc, on va au fond de la mer pour, justement, observer à travers la Terre et pas avoir du tout de lumière parasite. Et ils surveillent le ciel en permanence au fond de la mer. Avec les neutrinos, l'avantage, c'est qu'on sonde le cœur de l'étoile, exactement comme le Soleil. Comment marche le Soleil? On sait, grâce aux neutrinos, parce que c'est les seules particules qui sont capables de sortir du cœur de l'étoile et qui sont capables de dire, par exemple, quelles sont les réactions nucléaires qui se passent à l'intérieur d'une étoile. C'est avec les neutrinos.
Nous sommes témoins de notre propre origine, renouvelée et rejouée des milliers de fois, des milliards de fois, partout dans l'espace et le temps. Théâtre cosmique instantané ou différé. Ce cataclysme créateur vient bousculer d'immenses nuages gazeux éparpillés dans l'espace. Sous cet impact, ces nuages s'effondrent et deviennent des pouponnières d'étoiles.
Thank you.
d'altitude, 2876 mètres. Massif Pyrénées. Coordonnées 42 degrés 56 minutes 11 secondes nord. 0 degrés 8 minutes 34 secondes est. Voie d'accès téléphérique.
Supernova SN 2014J.
Distance 11,4 millions d'années-lumière. Constellation Grand Ours. Ascension droite, 9h, 55 minutes, 42,217 secondes. Déclinaison, plus 69 degrés, 40 minutes, 26,56 secondes. Imaginez l'origine du monde. Ou les origines du monde.
Alors, il y a des origines du monde et il y a l'origine du monde. L'origine du monde, pourquoi le monde est là, on n'en sait pratiquement rien. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le monde dans lequel on est, le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour autant qu'on puisse remonter loin, on arrive à cet instant extraordinaire, initial, qu'on appelle le Big Bang. Bon, ça, c'est là que tout commence. Et tout commence en attendant mieux, en attendant de savoir s'il y a eu un avant, si cette notion a un sens, si l'espace existait. Et voilà. Bon, là, on est dans la spéculation, on est dans le rêve, dans l'imaginaire scientifique, j'entends. C'est-à-dire qu'on le fait avec des calculs, bien sûr, on le fait dans des hypothèses, on le fait avec des contraintes. Les contraintes sont celles de des lois de la physique, qu'on n'a pas le droit de transgresser, on ne peut pas imaginer n'importe comment. Donc là, il y a cette origine-là, qui est toujours un grand point d'interrogation pour tout le monde. Mais dès lors que, depuis 14 milliards d'années, l'univers se développe et se déploie dans cette espèce de création continue d'espace et de temps, eh bien, il se passe toujours autre chose. De nouvelles étoiles apparaissent, de nouveaux mondes apparaissent, et donc on peut dire que nous sommes aussi issus d'un processus créatif de nouvelle origine, l'origine du Soleil qui est 4 milliards d'années, qui provient d'une origine qui est celle de l'explosion d'une étoile, et c'est un feu d'artifice permanent. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a partout dans l'univers de nouvelles violences qui donnent naissance à de nouvelles étoiles et qui donnent naissance peut-être à de nouvelles civilisations, de nouvelles vies ailleurs.
Passer une nuit à observer encore et encore. Pour juste ressentir, éprouver, regarder ce qui semble si loin. Ce ciel meurtrier que nous n'entendons pas, qui crie dans l'univers.
Lumière d'ici. Supernova 2014J.
De Bernard Monino.
Bernard Monino,
Daniel Kunt et Gilles Mardi-Rossian. Remerciements à Auguste Levinsou, directeur adjoint de l'Institut Pitéas, responsable de l'Observatoire de Haute-Provence. À Nathalie Desmond, assistante de direction de l'OHP. À Stéphane Favard et Didier Gravallon,
Stéphane
conducteur
Favard.
De télescope de l'Observatoire de Haute-Provence.
Didier Gravallon.
À Vincent Bertin et Damien Dormic,
projet Antares, centre de physique des particules, Université Aix-Marseille.
Damien Dornic.
À Rémi Cabanac, directeur du télescope Bernard Rioux et responsable scientifique du Pic du Midi. Musique originale de Gilles Martinussion. Texte lu par Myriam Majard avec la participation de Julie Hersant.
Julie Hersant.
Prise de son et mixage, Pierrick Charles.
Pierrick Charles.
Réalisation, Gilles Mardi-Rossian. Attaché d'émission, Inès De Bruyne.
Inès De Bruyne.
Productrice coordinatrice, Irène Omelianenko.
Cet atelier de création radiophonique est une commande publique du Centre national des arts plastiques et de France Culture.